Bienvenue dans l'émission La victoire à tout prix avec Mylène. Laissez Dieu parler à votre cœur et bonne écoute.
Bonjour et bienvenue sur la radio RFE, Mylène Dufay qui vous parle, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'ai un bon message à vous partager, c'est un message important. Vous savez, lorsque nous faisons de l'évangélisation, que ce soit par le cinéma mobile, ou lorsque nous faisons du porte-à-porte, nous distribuons des prospectus, nous rencontrons tout type de personnes qui croient toute espèce de choses à propos de Dieu. Et là, j'ai rassemblé 5 mensonges à propos de Dieu. Il y a 5 mensonges que l'ennemi a insufflés dans le cœur, dans la pensée des gens de ce monde, par rapport à Dieu. Ce sont des mensonges, de fausses doctrines, des idées humaines erronées qui peuvent véritablement aggraver la condition spirituelle d'une personne. Vous savez, vous pouvez avoir la foi et ne pas marcher avec Dieu, vous pouvez croire en Dieu et ne pas marcher avec lui, et beaucoup de gens croient en Dieu, bien entendu, parce qu'ils ont été élevés dans telle ou telle religion, mais cependant, leur vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Et c'est ça un chrétien. Un chrétien veut dire « comme Christ ». Donc moi, je vais vous parler des 5 mensonges à propos de Dieu. Il y a 5 mensonges qui reviennent très régulièrement, ou devrais-je dire des excuses, que les gens utilisent pour éviter de marcher avec Dieu comme sa parole le demande. Alors, je vais commencer par le premier mensonge. Le premier mensonge, souvent lorsque l'on parle avec Dieu, lorsqu'on essaie d'introduire Dieu, la première pensée qui vient aux yeux des gens, c'est que Dieu n'existe pas, que Dieu est une invention religieuse dans la tête des gens. Et souvent, les gens, ils ont cette réflexion, Dieu n'existe pas. Beaucoup sont cartésiens, ils ne croient que par ce qu'ils voient, parce qu'ils ne voient pas Dieu, ils disent que Dieu n'existe pas. Cependant, le vent, on ne le voit pas, mais on le ressent. Et peut-être qu'on ne voit pas Dieu comme on voudrait le voir, mais on ressent Dieu dans tout ce qu'il a fait autour de nous. Beaucoup disent que Dieu, c'est pour les pauvres et les malheureux, pour ceux qui ont besoin d'un idéal, qui ont besoin d'un espoir, ceux qui n'ont rien, tandis que nous les riches, ceux qui ont de l'argent, qui ont une situation confortable dans leur profession, n'ont pas besoin de Dieu. Mes amis, c'est un mensonge de l'ennemi. Les choses de cette terre et les choses matérielles, votre titre et votre position, ne vous apportera jamais le salut. Vous savez, il y a cette vie que l'on passe sur cette terre, on va vivre 20, 30, 40, 50 et plus, et puis il y a la vie dans l'éternité. Et je pense que la vraie réalité de Dieu, elle commence surtout dans l'éternité pour ceux et celles qui ne veulent pas de lui. Tout n'est pas terrestre, tout n'est pas matériel. Certains pensent et certaines se disent, moi je ne crois pas en Dieu, Dieu n'existe pas, ce qui leur donne l'opportunité de faire n'importe quoi, de vivre n'importe comment, parce que de toutes les façons, ils n'auront pas à se tenir devant Dieu, ils n'auront pas à lui rendre des comptes. Mais mes amis, ceci est un mensonge. Vous savez, c'est une forteresse dans laquelle les gens se sont enfermés. Ils préfèrent ne pas croire, faire l'autruche plutôt que de croire et d'avoir des comptes à rendre. La nature elle-même nous révèle que Dieu existe. Même certains scientifiques reconnaissent l'existence de Dieu parce qu'ils n'arrivent pas à comprendre la mise en place des étoiles, de la lune et plein de choses mystérieuses que la main de l'homme ne peut pas faire. J'aimerais vous donner 3 versets bibliques par rapport à l'existence de Dieu. Psaume 19:1. Les cieux racontent la gloire de Dieu et l'étendue annonce l'œuvre de ses mains. Romains 1:20. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité sont clairement visibles par la contemplation des choses qu'il a créées, de sorte qu'ils sont inexcusables. Ensuite, psaume 14:11, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Vous savez, ces versets nous parlent de l'œuvre des mains de Dieu, de la grandeur de Dieu. On voit ses montagnes, ses océans, on voit la nature, comment le corps humain est fait, comment les insectes sont faits, les 4 saisons, comment toutes ces choses, la terre tourne et sa biodiversité tourne parfaitement. Qui a créé ces choses? Qui a créé ces inventions incroyables? Si ces inventions sont incroyables, il faut que l'inventeur soit incroyable. Et la Bible dit qu'il n'y aura pas d'excuse parce que par la force de la nature, Dieu nous montre qu'il existe et qu'il a créé ces choses. Ce n'est pas Dame Nature, ce n'est pas le cosmos ou le Big Bang qui a créé ces choses, mais Dieu. La Bible dit que l'insensé dit en son cœur, il n'y a pas de Dieu. Vous savez, il y a des gens sur terre qui ne croient pas en Dieu, mais qui se croient sages par leur diplôme, par leur position sociale, par leur autorité, par leur connaissance intellectuelle. Ces personnes pensent qu'elles sont sages, mais la Bible les appelle insensés, parce que dans leur cœur, ils ne croient pas en Dieu. Dieu est la chose essentielle que l'être humain ait besoin pour vivre bien dans le présent et bien dans l'éternité. Donc c'était le premier mensonge à propos de Dieu. Dieu n'existe pas, Dieu est une invention religieuse dans la tête des gens. Je vous dis que c'est un mensonge. Deuxième mensonge à propos de Dieu, les gens souvent nous disent « Oh, l'enfer n'existe pas, l'enfer est une invention de Dieu, c'est une invention des croyants et des religieux pour faire peur aux gens, pour les manipuler. » Vous savez que souvent les gens disent que les religions manipulent les gens à cause du message de l'enfer. On utilise le message de l'enfer pour manipuler les gens. Mes amis, le message de l'enfer a l'air d'une mauvaise nouvelle, mais c'est une bonne nouvelle. Mieux vaut être averti sur terre de ce qu'il y a un enfer, que d'arriver à un enfer et de se rendre compte que l'on s'est trompé toute sa vie. Beaucoup ont une image édulcorée de Dieu. Oh, Dieu est amour, Dieu ne me jugera pas, Dieu sait que je suis humain, oh, Dieu ne m'enverra jamais en enfer parce que Dieu est trop bon pour ça. Vous savez, ce n'est pas Dieu qui nous envoie en enfer, ce sont nos péchés, c'est notre rébellion. Jésus a tout accompli, Jésus est venu pour nous délivrer du péché et nous empêcher d'aller dans ce lieu de perdition. Donc ce n'est pas lui qui nous envoie en enfer, mes amis. C'est notre propre décision. La Bible dit clairement que l'ennemi a aveuglé la pensée des gens afin qu'ils ne voient pas briller l'évangile de notre Seigneur. Et mes amis, il est temps de laisser Dieu éclairer notre pensée et être conscient qu'il y a un enfer et que nous, les croyants, qui avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous avons été délivrés de l'enfer. Et aussi, vous savez, beaucoup pensent que le purgatoire est un lieu qui existe. Les gens préfèrent croire au purgatoire plutôt que de croire à l'enfer. Qu'est-ce que le purgatoire ? On retrouve ça dans la religion catholique. Le purgatoire est une étape de purification par laquelle les âmes défunts morts en état de grâce doivent se expier leurs péchés dont ils n'ont pas fait pénitence suffisamment dans leurs derniers instants. C'est-à-dire, c'est un endroit où vous allez être en quelque sorte lavé, purifié. Si vous ne l'avez pas fait avant votre mort, vous allez ici être purifié, c'est-à-dire vous allez dans ce lieu être préparé, on va vous donner une dernière chance pour que vous entriez au ciel. Donc vous pouvez mourir dans vos péchés, parce que de toutes les façons, le purgatoire va vous permettre d'aller au ciel. Mes amis, c'est un mensonge de l'enfer. Dès l'instant où vous mourrez dans vos péchés, à la seconde même où vous fermez vos yeux, où votre esprit quitte votre corps, vous avez deux destinations. La Bible dit qu'il y a deux endroits où passer l'éternité, où vous allez droit en enfer, où vous allez droit dans le royaume des cieux. Mais mes amis, Jésus est venu nous ouvrir la porte du royaume des cieux. Donc ne croyez pas que l'enfer est une invention pour manipuler les gens. Je vais vous lire des versets bibliques sur l'enfer. La Bible est la vérité, elle est la colonne de la vérité. Matthieu 25, 41. Et le roi leur dit, en vérité, je vous le dis, tous ceux qui sont méchants iront dans le feu éternel qui est le châtiment éternel. Nos péchés nous conduisent en enfer. Apocalypse 20, 14. Et la mort et l'enfer furent jetés dans le lac de feu. C'est la seconde mort, l'étang de feu ou le lac de feu. Il y a un endroit, l'Apocalypse en parle, qui s'appelle le lac de feu. C'est un endroit où il y a de grandes souffrances. Et même des gens qui vont à l'église, qui ont une Bible et qui se disent croyants, parce qu'ils ne veulent pas laisser l'iniquité sur leur vie, même ces gens-là, mes amis, peuvent terminer dans le lac de feu. Marc 9, 43. Et si ta main te fait tomber dans le feu, coupe-la. Mieux vaut entrer dans la vie manchot ou boiteux que d'avoir deux mains et d'aller en enfer dans le feu éternel. Mes amis, la Bible est claire à ce sujet. Le péché, ce qui est un obstacle sur notre vie dont nous ne voulons pas nous débarrasser, nous amènera en enfer. C'est pour cela que l'ennemi met des forteresses, met des choses sur notre vie qui nous empêchent, mes amis, d'avancer avec Dieu. Des mauvaises habitudes, des mauvaises paroles, des choses que l'on regarde, de l'amertume dans le cœur, de la violence, des mauvaises paroles, des choses malhonnêtes vis-à-vis des autres. Mes amis, tout ça, c'est le péché. Et Jésus est venu nous délivrer du péché. Luc 16, 23. Et dans l'enfer, donc il est question de Lazare et de l'homme riche, il leva les yeux et vit Abraham au loin et Lazare dans son sein. Vous savez, l'homme riche était en enfer et Lazare, le pauvre, était au ciel. Et souvent les gens disent « Oh, les riches iront en enfer et les pauvres iront au ciel ». Vous savez, c'est pas parce que vous êtes riche que vous irez en enfer et que vous êtes pauvre que vous irez au ciel. Vous savez qu'un malheureux SDF qui a rejeté Dieu toute sa vie peut aller en enfer même s'il a souffert toute sa vie. Mais mes amis, c'est l'état de notre cœur qui va décider notre destination éternelle. Nous voyons bien que Lazare, qui croyait en Dieu, qui craignait Dieu, mais malheureusement qui était pauvre et malade, est allé au ciel. Mais cet homme riche, qui méprisait Dieu, qui n'avait aucun cas pour Dieu, qui était plein d'argent et qui se confiait en ses richesses à la fin de sa vie, a terminé en enfer. Donc l'enfer existe. Mes amis, Jésus a parlé plus de l'enfer qu'autre chose. Jésus nous a tellement avertis de l'enfer. Nous ne pouvons pas dire que les paroles du Seigneur ne sont pas vraies ou ne sont pas importantes. L'enfer est réel. Troisièmement, mes amis, les gens déclarent et pensent qu'ils sont sauvés par leur œuvre. Vous savez, c'est la chose la plus terrible que l'ennemi a introduit dans le cœur de l'homme. Vous savez, les gens pensent qu'il suffit d'être bon et de ne pas faire de mal à son voisin pour être sauvé. Lorsque vous parlez avec les gens se disent « Mais bien sûr, je pense que j'irai au ciel, je suis une bonne personne, moi je fais du bien aux gens, je donne aux pauvres, je ne fais pas de mal à mon voisin, oh bien sûr, j'ai des défauts, j'ai des petits péchés cachés, mais je ne fais pas de mal aux autres et je suis une bonne personne. Je dis bonjour à mes voisins, je sors leur chien, je vais chercher leur courrier. » Mes amis, aucune œuvre méritoire ne peut nous sauver. Vous savez, les gens pensent que en allant à l'église, en allant brûler des cierges, en faisant des actes de contrition, parce que je jeûne, Dieu m'accepte, parce que je vais brûler un cierge, Dieu m'accepte, parce que je vais à l'église, je suis accepté, parce que je sers Dieu, je suis accepté. On ne fait pas toutes ces choses pour être sauvé. Mais si on sert Dieu, si on va dans sa maison, c'est parce qu'on est sauvé. Donc il nous faut être vigilants, ne pas confondre la grâce et la loi. La Bible dit clairement que nous sommes sauvés par la grâce. Aucune œuvre méritoire ne nous fera entrer dans le ciel. Jésus seul est la porte. La Bible est claire. Le salut vient de la foi en Jésus-Christ. C'est un don de Dieu, une grâce qui nous sauve dans tous les sens du terme. Vous savez, vous avez des gens, des célébrités, je ne citerai pas de nom, je ne veux pas offenser quiconque, mais ces personnes ont créé des fondations. Elles ont nourri des pauvres, elles ont fait des choses extraordinaires. Elles ont aidé les prostituées, elles ont même fait des choses incroyables. Nous ne sommes même pas au courant. Mais cependant, ces gens ont rejeté Jésus-Christ. Et malheureusement, ce n'est pas leur argent qui va les sauver. Ce n'est pas parce qu'ils ont donné à des pauvres orphelins, ce n'est pas parce qu'ils ont donné à des personnes déficientes, ils ont soutenu des gens dans les hôpitaux. Et c'est formidable, bien sûr, on en a besoin, mais cela n'a rien à voir avec le salut de notre âme. Si on fait toutes ces bonnes œuvres, c'est parce qu'on est sauvé, c'est parce que la lumière de Christ est en nous et parce qu'on lui appartient, non pas pour être sauvé. Aucune œuvre ne nous sauvera. C'est ce que déclare la Bible dans Éphésiens 2, 8 à 9. Qu'est-ce qu'il est dit ? Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par le fruit de vos œuvres, afin que personne ne se glorifie ou afin que personne ne se vante. Personne n'arrivera aux portes du ciel disant « Seigneur, je suis arrivé là parce que j'étais un bon chrétien, parce que je suis allé à l'église, parce que j'ai brûlé des cierges, parce que j'ai lu ma Bible. » Non, c'est le sang de Jésus, mes amis, qui nous ouvre la porte du ciel. Jésus lui-même a dit « Je suis la porte, le salut vient de moi. » Romains 3, 24 déclare « C'est par grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi et cela vient de Dieu. » Seul. Romains 11, 6, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Alors ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus une grâce. Mes amis, faisons attention à la loi. Bien souvent, on va nous dire, oh, si tu viens à l'église, tu seras béni. Si tu viens à l'église, tu... Et maintenant, je suis d'accord. Je veux que l'on serve Dieu. Je veux que l'on aille à l'église. C'est nécessaire. C'est la place des croyants. Mais ne croyez pas que votre salut est dans ces choses. Vous pouvez aller à l'église toute votre vie et abriter le péché. Et abriter des choses dans votre vie qui ne vous sauveront pas. Vous pouvez avoir n'importe quel badge, n'importe quel titre. Vous pouvez être un prophète, un pasteur, un docteur, un enseignant. Et mes amis, ne pas être sauvés. Parce que le salut ne vient pas de nos œuvres, elle vient de notre foi en Jésus-Christ. Il nous faut accepter le salut en Jésus-Christ, cette grâce que nous ne méritons pas. Nous n'avons aucun mérite pour notre salut aux yeux de Dieu. Notre salut vient de Dieu seul. Et une fois que nous sommes sauvés, nous entrons dans les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous-mêmes, afin que nous les pratiquions. Nous allons à l'église, nous servons Dieu, nous aimons Dieu, nous répondons à la appel de Dieu sur notre vie, nous donnons à notre prochain, nous pardonnons, nous soutenons, nous sommes gentils, nous manifestons les fruits de l'esprit. Mais mes amis, les œuvres ne nous sauveront pas. Et si certaines religions insistent sur ce fait, je vous dis qu'elles sont dans l'erreur. Ensuite, quatrième mensonge à propos de Dieu, certains disent « Oh, Dieu est amour, Dieu est un Dieu de tolérance ». Dieu est tellement bon que son amour ne me punira pas, son amour ne me jugera pas. Vous savez, l'amour de Dieu ne veut pas dire qu'il ne regarde pas à nos fautes et à nos péchés. C'est Jésus qui est mort à notre place pour nos péchés, donc nous n'avons plus à nous tenir dans cette position. Quand on aime ses enfants, mes amis, on ne leur donne pas des choses qui vont leur faire du mal. On met des interdits, on met des blocages, on interdit qu'ils aillent dans tel endroit, on interdit qu'ils traversent sans nous, on interdise qu'ils pratiquent certaines choses, on interdise qu'ils fréquentent certaines personnes. Ce n'est pas pour les punir. Ce n'est pas parce qu'on a envie de les embêter, mais c'est pour les protéger. C'est parce qu'on sait que derrière cette pratique, derrière cette chose qu'ils pratiqueront, il y aura la destruction et la mort. Pourtant, c'est notre amour qui nous pousse à leur dire non, à les protéger et même à les réprimander. Et si nous comprenons ce principe avec nos enfants, nous devons comprendre que Dieu a le même principe avec nous et que Dieu ne tolérera pas. Il y a des moments où Dieu nous donnera sa grâce dans nos problèmes, dans nos faiblesses. Mais ne croyons pas que Dieu tolère toutes choses. La Bible dit que c'est l'amour de Dieu qui nous pousse à la repentance. Ce n'est pas parce que Dieu aime que l'on n'aura pas à lui rendre des comptes. Ce n'est pas parce que Dieu est amour que l'on doit vivre n'importe comment devant lui. Vous savez, son amour veut dire « il nous garde, il nous protège ». En d'autres termes, il y a des choses que Dieu ne tolère pas. Psaume 9, 8 déclare « il jugera le monde avec justice, il jugera les peuples avec droiture ». Ecclésiaste 12, 14 « car Dieu jugera toute œuvre, y compris tout ce qui est caché, soit en bien, soit en mal. » 1 Corinthiens 5, 5. Vous êtes donc à la fois ignorant et insensible. Alors là, il est question de Paul qui parle aux Corinthiens, donc qui tolérait certaines choses dans l'église. « Car vous tolérez que l'un de vous vive dans le péché alors que vous devriez pleurer et le chasser du milieu de vous. » Vous savez, l'homme aime la tolérance. « Oh, il faut être tolérant. Oh, il faut être tolérant avec telle pratique. Oh, il faut être tolérant avec telle personne. » Mes amis, la tolérance, c'est l'anarchie. Et si c'est l'anarchie, mes amis, on ne marche plus selon les commandements de Dieu. On marche selon ses propres penchants. Vous savez, on peut prendre les Écritures et les tordre et les adapter à notre vie, les adapter à notre volonté, à notre cœur méchant et sortir de la volonté de Dieu. Donc Dieu n'est pas un Dieu de tolérance. Dieu a des intolérances. Jérémie 25, 29 déclare « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je chasserai les incirconcis et tous ceux qui ne sont pas circoncis. » Alors ce verset est intéressant parce que la Bible dit que Dieu mettra à part les incirconcis. On a compris que ce sont ceux qui ne veulent pas marcher avec Dieu, qui n'en ont rien à faire de Dieu. Mais ceux qui ne sont pas circoncis. On va dire, oui, mais c'est la même chose, les incirconcis et ceux qui ne sont pas circoncis. Vous savez, il y a les incirconcis, ceux qui sont loin de Dieu, qui ne veulent pas entendre parler de Dieu. Il y a ceux qui croient en Dieu. Il y a ceux qui se disent marcher avec Dieu, mais ils n'ont pas été circoncis. Vous savez, la circoncision, c'est enlever la chair, enlever cette partie qui ne portera jamais de fruits. Cette partie dans notre cœur, pas la circoncision physique, bien sûr, mais la circoncision du cœur, c'est ôter cette partie de la chair de l'homme, de l'homme humain, c'est l'ôter pour qu'ils puissent se soumettre à Dieu. Et la Bible dit qu'il y a des croyants qui ne sont pas circoncis. Ils sont là, ils croient en Dieu, ils lisent leur Bible, ils prient, ils font toute espèce de bonnes choses. Mais dans leur cœur, le mauvais n'a pas été ôté. Donc Jérémie est un livre où le prophète est quand même assez sévère, où il avertit constamment le peuple de Dieu. Et je vous dis, l'Ancien Testament n'est pas un livre pour les vieux. C'est ce qu'un jour quelqu'un a dit, l'Ancien Testament c'est pour les vieux. Mes amis, si l'Ancien Testament était un livre terminé, je peux vous dire une chose, c'est qu'on ne l'aurait pas dans nos mains. Donc Dieu a estimé qu'il fallait prendre l'Ancien Testament et tous les livres, et tous les prophètes et toutes ces choses. Ensuite, Romains 2, 5, car le jour où Dieu jugera les secrets des hommes selon mon évangile par Jésus-Christ. Mes amis, il y aura un jour de jugement. Il y aura un jour où nous allons chacun pour notre part passer devant Dieu et lui rendre compte de nos œuvres. Certaines personnes pensent qu'il nous faut accepter Jésus, sauver un jour, sauver toujours. Et une fois qu'on l'a accepté dans notre cœur, on peut vivre comme on veut. Mes amis, c'est le message le plus dangereux que je n'ai jamais entendu. Vous savez, les croyants auront quand même des comptes à rendre à Dieu. Nous passerons devant Dieu. Nous passerons devant le tribunal de Dieu par rapport à nos œuvres. Et nous serons pesés dans la balance et Dieu verra si véritablement nous avons connu son Fils et si nous avons marché avec son Fils. Et mes amis, mon cinquième point et dernier point des mensonges à propos de Dieu, c'est que chacun croit ce qu'il veut, Dieu est dans toutes les religions. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui revient régulièrement lorsque nous partageons l'évangile. Souvent les gens disent « oui, moi je crois, mais je pratique pas, vous savez, j'ai ma propre croyance, moi j'ai ma foi ». C'est-à-dire que les gens ne s'inquiètent pas plus que ça, ils ne se disent pas « est-ce que je suis vraiment sauvé ? Est-ce que ce que je pratique ou pas va me rapprocher de Dieu ?» Vous savez, les gens, ils veulent adapter l'évangile à notre époque. Aujourd'hui, on vit dans une époque tellement perverse, tellement multi-religion, tellement les gens sont rebelles. Les gens veulent adapter leur foi à leur façon de vivre. Les gens disent que la Bible est démodée, que la Bible, c'est pour les vieux. Oh, la Bible, vous savez, la Bible, c'est la loi. Non, mes amis, la Bible, c'est la parole de Dieu, la Bible, c'est la volonté de Dieu. Et nous devons adapter notre marche selon la parole de Dieu. Beaucoup disent que tous les chemins mènent à Rome, mais moi je dis que toutes les religions ne mènent pas au ciel. Le Dieu de la Bible n'est pas le Dieu de l'islam, il n'est pas le Dieu des bouddhistes, il n'est pas le Dieu des hindous. Le Dieu de la Bible est le Père de Jésus-Christ et Jésus-Christ est son Fils. La religion ne sauve pas, Jésus seul sauve. Jésus a dit « Je suis le chemin, nul ne vient au Père que par moi ». Jésus n'envoie personne en enfer. C'est notre rejet de la croix et des œuvres de Jésus-Christ qui nous fera à passer l'éternité sans Dieu. Vous savez, à la fin des temps, l'ennemi se déchaîne en envoyant toute espèce d'esprit de tromperie, de séduction pour perdre le monde et même les élus de Dieu. Cependant, 1 Jean 14, 6 déclare « Jésus lui-même a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie et nul ne vient au Père que par moi ». Jésus n'a pas dit « Je suis un chemin, Je suis une vérité, je suis une vie. Je ne suis pas un chemin parmi d'autres. Non, il a dit « je suis le chemin ». Et beaucoup ne sont pas d'accord parce qu'ils disent « oui, mais vous les chrétiens, vous êtes orgueilleux parce que vous dites que vous avez la vérité ». Mes amis, je vous l'annonce le plus humblement possible. Jésus est le seul chemin vers le ciel. Si vous rejetez Jésus-Christ et son œuvre, vous n'irez pas dans l'éternité avec Dieu. Jean 19 déclare « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et sortira et trouvera du pâturage. » La vie éternelle est en Jésus, le salut est en Jésus. Acte 4:12 déclare « Il n'y a de salut en aucun autre, car sous le ciel, aucun autre nom, c'est-à-dire Jésus, a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. » Mes amis, Jésus représente tout. Jésus n'est pas une religion. Jésus est l'homme qui est sans péché et plein d'amour et de puissance, qui est venu mourir pour des hommes comme nous, des hommes indignes, méchants, des hommes dont le cœur n'a jamais cherché Dieu. Jésus est cet homme qui est venu nous sauver. Les religions ne viennent pas de Jésus. Jésus n'est pas une religion, il est un être pur, il est un être tangible, plein d'amour, qui ne nous veut que du bien. Et cet homme incroyable qui s'appelle Jésus a une destinée pour toi, il a une destinée pour moi. Notre intérêt, mes amis, c'est de le suivre et de marcher avec lui. Donc je sais que ce podcast a été un petit peu aiguisé, mais mes amis, parfois, c'est important de se rappeler que nous ne suivons pas une religion. Nous ne sommes pas là pour pratiquer selon notre pensée. Vous savez, chacun adapte la Bible selon ses pensées, selon son cœur et selon ses envies. La parole de Dieu doit rester intouchée. Vous savez, la Bible dit que si on enlève un iota, Dieu nous demandera des comptes. Nous ne voulons enlever aucun point, aucun trait de lettre à cette précieuse parole de Dieu. Donc j'aimerais vous encourager à marcher avec Jésus-Christ, à ne pas vous confier dans vos œuvres, dans la loi en quelque sorte, mais à vous confier dans sa grâce. Mieux vaut se confier en sa grâce, parce que sa grâce nous porte, elle nous donne ce que nous ne méritons pas. Elle nous offre des choses, des fois, dont notre pensée n'a même pas encore conçu. Sa grâce, elle est là pour nous, elle est imméritée. Donc saisissons-nous de la grâce de Jésus-Christ, de son amour et de ce qu'il nous donne, c'est-à-dire sa parole. Donc j'aimerais vraiment vous encourager, vous bénir et vraiment vous dire que Dieu vous aime, hein, et prier pour votre foyer, prier pour vos enfants. Et j'aimerais vraiment vous encourager en tant qu'auditeur à nous écouter, à nous écrire vraiment. Si vous souhaitez nous écrire, vous avez nos adresses mail sur le site, vous pouvez nous laisser un commentaire. Donc je vous bénis dans le nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été encouragés. À très bientôt sur la radio RFE.